Jean-Paul Rapneau, bonjour. Donc vous êtes à Waterloo dans le cadre de la 7e édition du Festival du film historique et vous êtes invité d'honneur. Alors, si on devait vous présenter passionné, bosseur, perfectionniste, ça vous convient ?
Bah, perfectionniste, hélas. Enfin, non, hélas, non, non, je
c'est
revendique.
Ce qui fait, c'est ça quand même, hein, donc la qualité de vos films quand même.
Voilà. Non, je revendique, oui, alors perfectionniste. Mais bosseur, ben, bosseur aussi, à vrai dire, ça va avec. Et effectivement, en même temps on me disait, ah, oui, mais alors, vous n'avez fait que 8 films. Ben oui, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on me disait aussi, depuis que je suis à Waterloo, c'est-à-dire depuis hier, on me disait, mais c'est vrai que sur 8 films, il y en a 6 qui traitent de l'histoire de enfin, on peut dire 6 films historiques sur 8, enfin, qui traitent de l'histoire que j'ai connue moi, de mon pays, ou de choses qui sont arrivées à mon pays. Bon, l'histoire m'a toujours passionné, ce que je veux dire aussi, c'est que il n'y a que 8 films, mais il y a tous les films que j'ai entrepris, écrits, développés, enfin tous les projets qui finalement n'ont pas abouti, ouais. Ont été abandonnés, que des acteurs qui ont refusé en finale. Enfin, il y a eu beaucoup d'aventures.
Non. Alors, premier film en tant que réalisateur, Vie de château, 66, mais avant ça vous étiez déjà scénariste, notamment avec De Broca et Yves Robert. Pourquoi vous êtes finalement, pour ce film, passé à la mise en scène ? Après quand même près de 9 ans, 7 ans d'écriture, là
Non, pour la vie de château. Oh, bah non, quand même.
Avant. Pourquoi on passe le pas de...
Bah, c'était... Bah, écoutez, on est là au, au début des années 60 et au pic de la... du phénomène qu'on a appelé la nouvelle vague en France.
Que vous avez quand même, entre guillemets, bluffé, puisque c'est vous qui recevez le prix de Luc, quand même. Hein.
Ben, le prix de Luc, et qui, sur tous les premiers films faits à l'époque, et tout le monde s'y mettait, et c'était la plupart de mes amis, d'ailleurs. Et bien, c'est celui qui a fait le plus gros nombre d'entrées, enfin, le plus grand succès public, en tout cas, de ce premier film, c'était ce film, La vie de château, oui. Qui a été très... À ma grande surprise, je le souhaitais.
Alors, quand vous commencez à travailler, en fait, vous travaillez en solitaire, alors qu'on dit en général que le cinéma, c'est quand même un travail d'équipe.
Oui, en solitaire pour le scénario, oui. Et enfin, j'ai toujours fait de la sorte, c'est-à-dire que j'écris toujours moi-même la première version, mais... Non, je ne suis pas particulier, parce que dans les versions qui suivent, une fois le scénario établi, l'histoire et les personnages établis, les secondes et troisième et quatrième versions, souvent, il y a des scénaristes qui viennent me rejoindre.
Un gros travail en amont. Est-ce que vous travaillez avec des storyboards ?
Alors ça, c'est dans la version finale, je ne sais pas si c'est la quatrième ou la cinquième. À un moment donné, effectivement, je mets le storyboard, un storyboard que je fais moi-même. Enfin, c'est plutôt des gribouillages que des vrais dessins, mais bien qu'il y ait quand même le cadre tel que je l'imagine. Et avant de décider d'une scène, je veux l'avoir en image, enfin en image grossière, parce que je ne suis pas un bon dessinateur. Et d'ailleurs, les acteurs n'aiment pas voir ces gribouillages que je fais qui remplissent.
C'est la remarque de Juliette Binoche.
Oui, c'est ça. Binoche, qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Et elle dit, mais le coloriage, parce qu'effectivement, les dessins sont en noir et blanc. Ah oui, il ne faut pas montrer ça aux acteurs. Oui.
Vos scènes sont fort chorégraphiées. Est-ce qu'on dirait presque un ballet, finalement, non ?
Il y a de ça, c'est pour ça que quand je les invente ou que je les écris ou que je les invente avec mes collaborateurs, enfin avec mes co-scénaristes, enfin mon co-scénariste, on peut pas travailler. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas travailler à plus de deux, avec, avec trois co-scénaristes autour d'une table, ça fait des disputes épouvantables. Bon, deux, on peut faire. Mais moi, pendant ce travail-là, je bouge beaucoup, je m'agite beaucoup dans la pièce, et il y a, je ne dirais pas que je danse, mais pas loin. Enfin, j'essaie de voir s'il y a un mouvement dans la scène. Parce qu'en disant les répliques et en essayant d'imaginer les acteurs, si je vois qu'il y a un mouvement possible, j'ai travaillé avec un grand ami à moi qui s'appelait Claude Sauté, grand cinéaste aussi, mais lui il restait très longtemps dans le travail assis, et dès qu'il se levait, dès qu'il avait envie de bouger, ça veut dire que la scène commençait à exister. Et il m'a un peu appris ça, c'est que moi-même, si je me lève, c'est qu'on a trouvé le truc.
L'improvisation dans...
Sur le tournage,
ouais. On passe, joker. Oui. Alors, les décors. Bon, Hitchcock, lui, en général, on le savait, aimait bien travailler en studio.
Oui.
Quelle est votre perception à cette façon de travailler?
Oui, mais je l'ai fait souvent. Enfin, je crois qu'il faut mélanger... Je crois qu'effectivement, les extérieurs, il vaut mieux les tourner en extérieur. À l'époque d'Hitchcock, quand je pense aux films américains de l'époque, y compris certains westerns, où dès qu'il y avait une scène plus... une scène plus intime, plus rapprochée, mais qui se passait en extérieur, on faisait l'extérieur en studio, mais ça se voit comme le nez au milieu du visage. Donc... Moi, j'aime faire rentrer la nature dans mes films. La hussarde sur le toit, on a traversé toute la Provence, tout le midi de la France, on peut dire. Mais en fait, on a quand même tourné en studio dès qu'on était en intérieur. Enfin, rien n'est bien nouveau dans ma manière de... Enfin, il faut que ça soit vrai. Et les intérieurs aussi, on peut les tourner dans des vrais lieux. Enfin, écoutez,
Et vos costumes aussi, c'est important quand même.
Ah oui.
Ça,
ah oui.
C'est Catherine Le Terrier. Et puis surtout, il y a Franca Squartiapino.
Oui, Squartiapino. Oui,
qui elle a quand même eu les trophées, là.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. César et Oscar. Oui, on n'en a pas assez dit. Oscar des costumes. Et elle a même eu encore une autre chose. Enfin, les Césars italiens, là, les David de Donatello. En Angleterre,
Les BAFTA.
Les BAFTA, les costumes.
En parlant de prix comme ça, donc Cyrano, 10 Césars, un Oscar, on vient d'en parler, Golden Globe, c'était en 90.
Oui.
Vous les regardez encore souvent vos trophées là qui sont chez vous là.
Ils sont sur. Il y a une table réservée dans mon salon. Oui.
Vous avez digéré même après 30 ans?
Oh oui. Oh mais quand je pense au film, je pense pas. Bien qu'il y ait la table dans le salon. Je pense pas à ça. On fait pas les films pour ça. Je repense beaucoup. Quand je croise. Ce qui est extraordinaire, ça fait 30 ans, oui, peut-être, oui. Mais quand je croise Depardieu, pas trop souvent, hélas, mais quand il me voit arriver, s'il me voyait ici arriver au bout de la pièce, de loin, là, déjà là-bas, il se lancerait dans une tirade de Cyrano, qu'il a encore en tête. Alors que dans les films actuels qu'il fait, il est incapable de se souvenir des répliques. On est obligé de lui écrire les répliques sur des bouts de papier.
La musique, important.
Ah oui.
Et vous êtes un fan de jazz. Pourquoi finalement vous n'avez jamais utilisé le jazz et faire un film éventuellement sur le jazz?
Oui, non. Alors oui, parce que j'ai pensé. Oui, peut-être. Vous avez dû lire, j'ai dû dire ça, vous l'avez peut-être lu, mais c'est vrai que la rythmique du jazz, dont j'étais fou avant, depuis toujours, depuis la première jeunesse. La rythmique du jazz, c'est ça, effectivement, m'a donné peut-être quelque chose qui fait que mes films ont un rythme.
Oui.
Mais l'utiliser, justement, ça ferait double. Non, ça serait un pléonasme. Ça serait ça. Jazz sur rythme. Non, pour moi, le jazz doit être dans le rythme des images. Et là-dessus, on peut mettre une musique romantique. C'est ça.
Alors, vos acteurs, bon, c'était quand même ce sont des stars. Hein. Bon, Belmondo, Deneuve, Montand, Depardieu, on vient d'en parler. Ils sont dociles, finalement, respectueux de votre travail.
Peut-être
Montand sur le sauvage.
Montand. vous savez tout. Ah oui, oui, ça. Le sauvage, ça a été une grande bataille. Oui. Oui, une grande bataille parce que les acteurs aiment qu'on les aime. Et d'ailleurs, je les aime. Et d'ailleurs, il faut les aimer. Moi, j'ai une admiration, une tendresse pour eux. Mais là, ils savaient que j'avais été voir d'autres plusieurs autres acteurs avant de me tourner vers lui. Et ça, il n'a pas aimé ça. Il le ressentait. De temps en temps, d'ailleurs, il disait « Non, moi, je refuse de... » Oui, j'ai dit « Mais si vous pouviez, Yves, courir à travers la pièce, ou courir plutôt dehors, dans la forêt, vous pouviez courir. » « Ah non, disait-il. Non, je refuse. » « Mais pourquoi ?»« Non, mais c'est dans la scène. » Non. Alors, ça, Belmondo peut le faire, mais moi, mon temps ne court pas comme ça. Non. Alors, et ça revenait sans cesse. Belmondo peut le faire, et moi, non.
Ça. Nous sommes à Waterloo.
Ah oui.
Champ de bataille.
Oui.
Vous êtes un fan de l'histoire, on vient d'en parler.
Oui.
Mais plus Révolution française, quand même, non que...
Ah oui, mais enfin, avec ce qui a suivi, quand même. Enfin, ouais. Ce qui a suivi, c'est quand même Napoléon. Oui, non mais dans ce film Le Hussard sur le toit qu'on a montré hier, c'est vrai que c'est très inspiré, enfin Giono le disait lui-même, c'est très inspiré par Stendhal, notamment ce livre de Stendhal qui s'appelle La Chartreuse de Parme, dont le premier chapitre a lieu à Waterloo, pendant la bataille de Waterloo, avec le héros qui Fabrice Del Dongo, qui est dans l'armée de Napoléon et qui ne comprend rien. Il est perdu dans la bataille, il ne comprend rien. Et dans Le Hussard sur le toit, au fond, le personnage du Hussard sur le toit, le Hussard lui-même, est un peu un clone du personnage de Stendhal. Donc, là, je n'ai pas encore été voir le champ de la bataille. J'irai, je crois, cet après-midi, j'espère. Mais c'est beaucoup en pensant aux deux livres, et La Chartreuse de Parme et Le Hussard, à leur héros, et à mon travail préalable sur le film Le Hussard. Pour moi, ça fait partie. Cet endroit où nous sommes, ça fait partie de l'histoire de ce film.
Lausanne, on en parlait justement, Vincent Pérez, je crois que c'était l'année dernière,
oui.
Vous avez un invité, on présentait Cyrano, Waterloo, Le Hussard. Si vous aviez à choisir un film pour vous, lequel sur les huit vous choisiriez?
Où sont-ils? Ah oui, il y avait une liste tout à l'heure. Non. Mon film préféré?
Oui, si vous aviez, vous, comme carte de visite, dirons-nous, indépendamment, si un festival ou une rencontre comme celle de Lausanne qui choisit entre guillemets pour vous votre coup de cœur sur votre, votre film
parce qu'il y a ce alors effectivement j'ai cette chance là c'est que beaucoup repassent à la télévision en France notamment sur les écoutez quand on vient d'en parler, mais j'ai une tendresse particulière pour le sauvage, et voilà, que je trouve. Et pour Cyrano, mais il y a une peut-être beaucoup due à la beauté de Catherine Deneuve à cette époque-là, mais il y a une grâce dans le sauvage,
Solaire.
Solaire, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah. Avec la musique de Michel Legrand, Catherine, enfin il y a...
L'eau bleue.
L'eau bleue, ah, oui, ouais, oui, ça,
c'est...
oui.
C'est vrai que vous avez souvent joué avec les coproductions italiennes, et notamment sur Le Sauvage. C'est le hasard ou c'était des montages financiers ou des accointances particulières avec l'Italie?
L'Italie joue un grand rôle pour
la plupart de vos films, quand même. Hein,
oui, ouais. Mais même pas. L'Italie et la France, c'était... oui, en même temps, oui, c'est ça. C'est amour-haine, enfin, amour... amour, blague méchante, enfin, on n'arrête pas de se blaguer. Enfin, c'est deux peuples qui s'aiment et qui se blabent. Enfin, qui s'aiment, il faut le dire vite, hein. C'est pas sûr. Mais, alors, attendez, il y a eu Laura Antonelli, donc cette grande actrice, enfin, cette, une fille adorable qui a fait beaucoup de films de toutes sortes, dont des très légers, et ça, c'était dans Les Mariés de l'an 2.
Mais même dans vos décors, hein. Ezio.
Ezio Fedger, oui.
Donc, c'est...
Ah ben, c'est ça, ça c'est
même
sûr.
Même au niveau technique, enfin, je veux dire, au niveau des comédiens.
Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça. C'est que quand on m'a proposé, parce qu'en fait, c'était pas tellement une idée de moi au départ de faire adapter la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Ça a été ma première réaction. Alors, la première réaction, j'ai dit « oui, peut-être, oui ». Enfin, j'ai hésité avant d'accepter, mais en acceptant, j'ai dit « mais oui, mais il faut... » Alors, je vous
crois que vous avez bien fait.
Oui, j'ai accepté, mais j'ai dit « mais il faut que ça soit très beau ». Ben, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, il faut que ça soit très beau, il faut que ça soit un spectacle magnifique, mais beau. Pas une splendeur, mais avec une vraie beauté. Et alors, et j'ai très vite ajouté, ça peut être que les Italiens qui font ça. Oui. Et je me suis mis à la recherche d'un grand décorateur de théâtre que j'admirais, le décorateur de Giorgio Strehler, ce grand homme de théâtre italien, et qui s'appelait Elio Frigerio. Il a beaucoup fait, enfin, pour la beauté visuelle du film. Voilà. Lui et sa femme, avec la fameuse détentrice de l'Oscar.
Franca. Jean-Paul Rapneau, un grand merci en tout cas, et bonne visite du champ de bataille.
Du champ de bataille, d'accord.